Bonjour, bienvenue sur le réseau FM Plus 103.1 à Nîmes et sur le 91 FM à Montpellier. Tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h, retrouvez Itinéraire Santé, une émission pour se sentir bien dans son corps et avec soi-même, à écouter aussi en podcast sur fmplus.org. En ce mois de novembre, nous allons nous intéresser aux effets de traitements non médicamenteux sur la bronchopneumopathie chronique obstructive ou BPCO, une maladie respiratoire chronique extrêmement fréquente, hélas. Et donc pour cette émission, j'accueille le docteur Gouzy Farès, pneumologue et physiologiste travaillant au CHRU de Montpellier et faisant de la recherche sur les maladies respiratoires. Bonjour docteur.
Bonjour Annick.
Alors j'aimerais pour commencer que vous nous donniez une définition de cette maladie.
Ah, la bronchopneumopathie chronique obstructive, son nom est extrêmement compliqué. En fait, c'est une maladie tout à fait simple que on connaît tous. C'est en fait une maladie respiratoire qui est due à l'inhalation d'irritants ou de particules nocives. En France, c'est essentiellement la fumée du tabac. Et donc, cette maladie s'installe progressivement, plutôt dans la deuxième partie de la vie, et va être à l'origine de divers symptômes respiratoires, par exemple de la toux, de l'encombrement, également essentiellement un essoufflement qui va retentir sur les activités de la vie de tous les jours et progressivement handicaper le patient.
Oui. Alors c'est un gros pourcentage en France personnes atteintes de BPCO.
Oui, alors ça a notamment fait l'objet de plans au niveau national, un plan BPCO en 2005 qui à ce moment-là établissait la prévalence, le nombre de patients atteints de BPCO à près de 3,5 millions. C'est la cinquième cause de décès en France. Et évidemment, c'est une maladie qui ne cesse d'augmenter du fait de l'augmentation progressive du tabagisme chez les femmes après la Deuxième Guerre mondiale. Donc on est quand même face à un réel problème de santé publique et de coûts de santé et qui sont importants.
Voilà. Oui. Alors on parle d'emphysème aussi. L'emphysème étant la suite ou... partie de la BPCO ou faisant une partie intégrante de la BPCO. Comment on peut expliquer ce que c'est l'emphysème, parce qu'on en parle aussi beaucoup.
Oui, alors en fait, BPCO, on va appeler la maladie par ses lettres qui la résument, c'est plus simple. La BPCO et l'emphysème, c'est en fait la même maladie. Il y a toujours une partie d'emphysème dans la BPCO. L'emphysème, c'est la destruction des alvéoles pulmonaires.
Oui, les petites alvéoles, toutes petites, là, qui se dessèchent en fin de compte, c'est ça ?
Exactement, elles se détruisent par l'effet irritant, en l'occurrence de la fumée de tabac. Et parallèlement à l'obstruction des bronches, à l'atteinte des bronches, vous avez également une destruction des alvéoles. Donc il y a toujours un peu d'emphysème dans la BPCO, il y a toujours un peu de BPCO dans l'emphysème. C'est une distinction en fait qu'on fait un petit peu, mais qui pour le moment n'a pas complètement de traduction sur le plan des traitements, de la prise en charge. On traite les patients emphysémateux BPCO de la même manière.
Oui. Et alors, l'emphysème, c'est irréversible.
La BPCO emphysème, c'est une maladie...
On va dire oui, la BPCO emphysème.
Voilà,
oui.
Pour peut-être simplifier.
Oui, oui.
C'est une maladie qui est lentement progressive et irréversible. Chronique, dont il existe des traitements que l'on peut soigner, mais pour laquelle il n'y a pas de traitement qui permet la guérison. Donc la stratégie, tout l'objectif dans cette maladie, ça n'est pas d'améliorer un pronostic, mais c'est d'améliorer la qualité de vie des patients. Et c'est là vraiment une notion très importante. Aujourd'hui en France, nous sommes de plus en plus face à ce type de maladie, des maladies pour lesquelles il n'y a pas de traitement curateur. C'est l'effet de l'amélioration des traitements en France, mais pour lesquels il y a plein de choses à faire pour améliorer la qualité de vie. Et la BPCO emphysème, ça en est un des exemples.
Oui. Alors l'objectif de cette émission, que vous retrouverez aussi donc le mercredi suivant, le 19, si je ne me trompe, où nous allons continuer voilà cette thématique, la BPCO, voilà, il y a des traitements, mais nous allons essayer de découvrir, enfin, vous allez essayer de nous expliquer quels sont les traitements non médicamenteux. On va quand même dire quelques mots sur les traitements médicamenteux et à partir de quel stade, vous êtes obligé de prendre. En général, c'est plutôt des aérosols, enfin des
traitements inhalés.
Des traitements inhalés.
Effectivement, on a dans cette maladie qui est essentiellement liée au mode de vie, hein, donc la fumée de tabac, la sédentarité, les problèmes nutritionnels, ce qu'il faut comprendre, c'est que parallèlement à l'atteinte pulmonaire, on a une maladie qui se traduit aussi au niveau plus général. Hein, vous avez systématiquement chez un patient l'existence d'anomalies dans les autres, au niveau des autres organes. Par exemple, une hypertension artérielle, par exemple une ostéoporose, par exemple des troubles du sommeil, par exemple de l'anxiété, de la dépression. On a également fréquemment des problèmes musculaires. Et donc, pour traiter une BPC emphysème, vous avez deux versants. Le premier versant, c'est le traitement de l'atteinte pulmonaire. Et pour ça, évidemment, le sevrage tabagique est incontournable. Hein. Il marche quel que soit le stade de la maladie. C'est souvent ce qui est le plus difficile à faire, mais c'est ce qui a le plus d'effet. Et puis, parallèlement à ça, vous avez également les traitements inhalés qui vont jouer sur la fonction pulmonaire. Et puis, parallèlement à ça, vous avez des traitements qui vont jouer sur toutes les atteintes organiques associées. On peut, par exemple, améliorer la fonction musculaire en faisant pratiquer de l'activité physique régulière, bien ciblée aux patients qui vont donc s'améliorer de ce côté-là, alors que finalement, au niveau pulmonaire, on a une atteinte pulmonaire qui va rester identique. Donc, il est possible à la fois d'améliorer le patient en jouant à la fois sur son atteinte pulmonaire, mais aussi sur toutes les atteintes qui sont associées, systématiquement associées, et qui vont faire que le malade va finalement être plus malade que s'il ne l'était simplement à cause de son problème pulmonaire. Hein. Donc ça, c'est effectivement un enjeu assez crucial pour lequel il existe des traitements non médicamenteux tout à fait efficaces.
Oui. Alors vous parliez de l'ostéoporose, ça je l'ignorais.
Oui.
Que la BPCO pouvait avoir un effet aussi sur l'ostéoporose. Comment on explique ça ?
Alors, les mécanismes font l'objet de pas mal de discussions hein, au niveau scientifique, probablement parce qu'ils sont multiples et complexes. Ce qu'on peut dire, c'est que dans l'organisme, on va avoir progressivement, au niveau des protéines de l'organisme, une perte. Hein. Une destruction progressive, une consommation, on va dire, progressive des protéines, ce qu'on appelle un catabolisme, qui va se retrouver autant au niveau musculaire qu'au niveau osseux. Et donc, quand on perd des protéines de l'os, on développe de l'ostéoporose. La cause de ça, probablement, elle est liée au fait que au niveau pulmonaire, il existe une inflammation, qui est la réaction finalement du poumon à l'inhalation d'irritants hein, bronchiques. Et cette inflammation à bas niveau va se généraliser dans l'ensemble de l'organisme. Hein. C'est une inflammation qui est à bas niveau, pas très importante, mais qui va durer des années et des années et des années. Et donc, à terme, les patients vont développer systématiquement une perte osseuse, une perte musculaire, des complications vasculaires, etc. etc. Voilà.
Eh bien, pour réfléchir à tout ça, nous faisons une petite respiration musicale sur le réseau FM+. Itinéraire Santé, c'est sur le réseau FM+, tous les premiers et troisièmes mercredis du mois à 9h. Donc pour ce mois de novembre, eh bien, nous nous intéressons aux effets de traitements non médicamenteux sur la BPCO emphysème avec le docteur Gouzy, pneumologue, physiologiste, travaillant au CHRU de Montpellier et faisant de la recherche sur les maladies respiratoires chroniques. Docteur, comment dépister une BPCO ?
Alors, le dépistage de la BPCO est relativement simple à faire avec un test diagnostique qui est un examen du souffle. On appelle ça, en langage médical, une spirométrie. C'est simplement une mesure de souffle en demandant au patient de souffler le plus fort et le plus longtemps possible dans un appareil. On peut mesurer des volumes, des débits bronchiques. Et chez un patient qui présente des symptômes évocateurs, de l'essoufflement par exemple au premier plan, on peut affirmer le diagnostic de BPCO. Et là, c'est quelque chose qui est vraiment crucial parce que la maladie est souvent négligée, mésestimée et les patients ne sont pas diagnostiqués alors qu'ils en sont porteurs. Pourquoi ? Parce que l'essoufflement, c'est un symptôme qui arrive extrêmement progressivement et que les patients s'adaptent. L'essoufflement, c'est surtout déclenché quand on fait un exercice physique. Eh bien, les patients, naturellement, volontairement ou involontairement, réduisent leur activité physique et donc évitent cet essoufflement, alors qu'il est clairement établi qu'il n'existe pas d'essoufflement normal. L'essoufflement, ça n'est jamais normal. Et donc, il faut ne pas hésiter à aller se faire dépister par cet examen qui est extrêmement simple, qui devrait même être pratique courante, comme la prise de la tension artérielle chez le généraliste. Parce que derrière, quand on a ce diagnostic, il y a des possibilités de traitement pour aller mieux, pour récupérer une meilleure qualité de vie.
Oui. Donc déjà, si vous êtes essoufflé après avoir monté, on va dire combien d'étages ?
Généralement, l'essoufflement, c'est à partir du moment où on ressent sa respiration comme étant anormalement inconfortable, quel que soit le type d'exercice. Alors bien sûr, ça va démarrer pour des exercices qui sont intenses, hein, au bout du deuxième, troisième étage, sans s'arrêter. Mais c'est la notion vraiment d'inconfort et de caractère vraiment anormal chez quelqu'un qui est exposé à des irritants bronchiques, à fumer, qui doit en quelque sorte alerter. Le fait également de faire des bronchites un peu trop fréquentes, c'est important. Ça nous permet de porter un diagnostic et plus précocement et d'intervenir tôt. Hein. On peut intervenir tôt et donc derrière maintenir les patients le mieux possible, le plus longtemps possible.
Voilà. Oui. Alors bon, déjà avant d'aller voir un pneumologue, on peut demander à son médecin généraliste justement. Enfin, en général, ils ont ces petits tuyaux alors... là, dans lesquels il faut souffler. Normalement, ils seraient censés vous le faire. Hein. Et après, encore faut-il qu'ils sachent les interpréter.
Ouais, bon. c'est l'objet d'un débat. C'est clair que ça nécessite pour le diffuser plus largement de faire la preuve que ça va permettre d'amener, c'est parce que c'est des coûts associés, hein, bien sûr, hein, former, équiper les généralistes. Donc en l'état actuel des choses, c'est pour le moment un petit peu délicat. Mais en tout cas, vous pouvez en parler dès aujourd'hui à votre médecin généraliste qui, s'il n'est pas équipé, peut vous adresser vers un pneumologue qui pour vous faire faire tous ces examens-là. En médecine du travail, ça se fait également très facilement. Et puis, dans différents dispensaires, maintenant, on trouve ce type de petits appareils qu'on appelle donc des spiromètres.
Oui. Voilà. Alors, une fois ce premier test fait, la spirométrie, on passe à un autre examen pour confirmer ou pour explorer un peu plus l'ampleur des dégâts, on va dire.
On peut aller plus loin. Ça va dépendre du patient, hein, je dirais, en fonction d'eux. Hein. Bien sûr, maintenant, en rapport avec ce que je vous disais juste auparavant, c'est important d'examiner le patient sous toutes ses coutures, puisque derrière, on sait qu'un patient va systématiquement avoir des problèmes organiques autres qui sont associés. Hein. Donc, une fois que le diagnostic est porté, il faut bien s'assurer qu'il y ait pas d'autres anomalies cardiaques, musculaires, osseuses, neurologiques associées. Hein.
Oui.
Voilà.
Alors bon, on a parlé de l'essoufflement qui est donc un des premiers symptômes. Vous avez parlé aussi de l'encombrement bronchique, ouais. Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe qui pourrait mettre nos auditeurs fumeurs en alerte et pas que, puisqu'on, enfin, c'est quand il y a quand même pas que le tabac. Hein.
Il y a pas que le tabac. C'est sûr que le tabac c'est ce qui marche le mieux de loin, mais effectivement d'autres irritants bronchiques peuvent être impliqués. Et puis c'est sûr que nous ne sommes pas tous égaux face au tabagisme. Hein. Les patients qui peuvent avoir fumé des années, qui vont pas développer de BPC ou emphysème. À ce moment-là, peut-être ils développeront des problèmes autres, hein, mais en tout cas, ça n'est pas systématique. Mais c'est important d'être alerté par donc ces différents symptômes. Alors, si c'est pas l'essoufflement, ça peut être une réduction d'activité physique ou une fatigue un peu plus accrue. Hein. On avait dans une étude que nous avons publiée en 2011 montré que la sédentarisation progressive, la réduction d'activité physique survenait assez précocement chez les patients et même avant l'apparition de l'essoufflement. Hein. Si effectivement il y a des symptômes comme la toux, l'expectoration, des bronchites un peu sévères, tout ça doit éventuellement attirer l'attention. Et puis à partir d'un certain nombre, une certaine quantité de tabagisme, c'est clair que même s'il n'y a absolument aucun symptôme, c'est bien d'aller faire un test de dépistage parce que c'est une maladie qui s'exprime peu. Hein, voilà.
Oui, et quand elle s'exprime, enfin elle peut s'exprimer aussi, voilà, autant ça peut être très 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 lent, l'évolution peut être très lente, ouais. Autant elle peut aussi se déclarer de façon un peu brutale, par exemple dans le cas d'une bronchite,
oui.
Où là ben, on va découvrir ouais. Que... Ouf,
C'est bronchite, autant chez le sujet sain, voilà, il n'y a même pas besoin de prescrire de traitement antibiotique. Chez un patient qui a cette maladie respiratoire, en fonction de sa sévérité, ça peut nécessiter un simple traitement antibiotique au domicile, ça peut nécessiter une hospitalisation, et des fois, ça a conduit les patients en réanimation. Donc, on a un petit peu tout ce panel-là. Et effectivement, en 2014, on n'est pas encore suffisamment bon, c'est-à-dire qu'on diagnostique cette maladie beaucoup trop tardivement, chez des patients qui viennent pour une bronchite extrêmement sévère qui nécessite une assistance ventilatoire en réanimation, ou pour des patients qui vont être à un stade extrêmement avancé et nécessiter une oxygénothérapie, un traitement par oxygène au long cours. Ça veut dire que quand même on a manqué une étape, quoi.
Oui. Hein. Et ça veut dire aussi que voilà, une fois que vous êtes atteint de BPC ou que si vous continuez à fumer, auditeur, écoutez-moi, vous allez vous retrouver à vous balader avec votre petite bouteille d'oxygène. Bah c'est pas très pratique ça. Hein, docteur, qu'est-ce que vous en pensez?
C'est sûr que c'est malheureusement un traitement qui est assez contraignant sur le plan de l'autonomie, etc.
Ça c'est le
stade
ultime quand même.
Oui, alors il faut quand même dire, enfin nous on essaie toujours de travailler dans une démarche qui soit la plus positive possible. L'objectif n'est pas pour nous de faire encore, enfin de faire peur aux patients. L'objectif, c'est d'essayer de construire positivement avec un patient et de montrer ce qu'il est possible de gagner et non pas simplement les potentielles complications qu'on peut avoir. Hein. C'est sûr que c'est une maladie qui complique la vie et des fois quand les poumons ne fonctionnent plus trop bien, on est obligé d'aider. Hein. Mais ce qui est important d'avoir, de dire hein, pour la communication auprès de nos auditeurs, c'est que il faut pas avoir peur d'aller se faire dépister. Parce que derrière, une fois qu'on a un diagnostic, il y a des traitements qui sont efficaces, on peut se faire aider et on peut améliorer les choses. Hein. Et pas simplement leur dire que si on continue à négliger le problème, on va avoir de graves complications.
Oui.
Voilà.
Alors nous allons parler maintenant justement du positif.
Oui.
Allons vers l'avant, juste après la petite pause musicale. Thank you. itinéraire santé sur le réseau FM+, en compagnie du docteur Gouzy. Alors docteur, dans le cadre d'une étude sur les maladies respiratoires chroniques, vous faites appel à des volontaires pour participer à une recherche biomédicale intitulée « Effet de différentes modalités de réentraînement sur la capillarisation musculaire de patients BPCO ». Une réponse microvasculaire normale du muscle, point d'interrogation.
Bravo, bravo, parce que le titre a rallongé.
J'ai essayé de bien me concentrer et dissuasif. De bien lire.
Alors. Mais effectivement, ça explique le détail de cette étude, qui s'intéresse donc à la BPCO et à un traitement de la BPCO qui est l'entraînement physique. Comme je vous le disais un petit peu auparavant, des patients qui ont la BPCO en emphysème vont être finalement plus malades qu'ils ne le sont pour cause d'atteinte d'autres organes. Et parmi ceux-ci, il y a une atteinte musculaire. C'est des patients qui perdent en force, en endurance, également en masse musculaire, et qui se retrouvent beaucoup plus handicapés qu'ils ne devraient l'être de ce fait-là. Et donc, depuis quelques années, nous proposons des programmes d'entraînement physique adaptés, bien sûr, à la capacité des patients et qui permettent aux patients de récupérer en capacité physique, en qualité de vie, en améliorant la fonction musculaire. Et donc, on travaille beaucoup sur ça. On cherche à comprendre les mécanismes de cette atteinte musculaire et les mécanismes bénéfiques, les effets bénéfiques du réentraînement à l'effort. On sait notamment que quand on fait de l'entraînement, quand on entraîne ses muscles, chez vous et moi, chez tout le monde, on va faire repousser des tout petits vaisseaux qui sont au contact des fibres musculaires qui permettent d'amener de l'oxygène aux muscles. Ces petits vaisseaux sont moins nombreux chez les patients qui ont la BPCO emphysème et donc contribuent à altérer la fonction musculaire de ces patients. Et donc quand on réentraîne les patients, on fait repousser ces capillaires. Et dans une étude antérieure, on s'est aperçu qu'il repoussait un petit peu moins bien que chez un sujet sain. Donc on aimerait savoir pourquoi, on aimerait savoir comment. Est-ce que c'est un problème d'intensité et de durée de l'entraînement, ou est-ce que c'est le fait de la maladie elle-même? Et donc, grâce à cette étude, on fait appel à des sujets sains et à des patients BPCO volontaires, on pourra étudier ces mécanismes-là. Voilà.
Avise donc aux fumeurs et anciens fumeurs qui désirent participer à ce programme d'activité physique, enfin toutes les personnes de toute façon atteintes de BPCO. Alors les hommes doivent être âgés de 60 à 77 ans, oui. Les femmes de 55 à 78, et voilà, comme je le disais, tous atteints de BPCO ou emphysème. Je peux donner un téléphone, 04 67 33 59 10, et une adresse email, B comme... bébé, tiré, ayoub, ayoub, @chu-montpellier.fr. Donc, les tests auront lieu à l'hôpital Arnaud de Villeneuve au département de physiologie clinique. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie de cette émission Itinéraire Santé, donc sur les traitements non médicamentaux de la bronchopneumopathie chronique obstructive, mercredi 19 novembre à 9h, où là nous allons rentrer vraiment dans le détail de cette étude et où le docteur Gouzy nous donnera plein de bons conseils pour essayer de vivre un peu mieux avec cette maladie. Docteur Gouzy, un grand merci.
Merci à vous, Annick.
Merci à Stéphane qui est à la technique. Merci à vous, chers auditeurs. Et à très bientôt. Je vous rappelle que cette émission est écoutable en podcast sur le réseau fmplus.org.